Donc le concept, comme je vous l'expliquais, c'est de mettre ça sur les yeux.
Vous soyez vrai.
Totalement isolé dans le noir. Okay. Dès que je ferme la porte, okay. On est parti. Et donc je vous souhaite une belle émission.
Ouais.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
Dans le noir.
Bertrand Bichot. Alexandre Lemierre.
Vous connaissez son visage et sa voix, sa démarche et ses engagements, son allure et son univers. Voilà précisément 40 ans depuis son premier disque qu'il ne cesse d'être là, présent, tout autant prolifique que protéiforme. C'est chanteur, musicien, auteur et compositeur que nous l'avons découvert. Mais il se mit aussi en scène en tant que réalisateur, il joua les acteurs, sans tourner cette page il devint écrivain. À la verre, la poésie, il se produit même qu'il fut producteur et éditeur. On dit aussi de ce personnage atypique et anachronique qu'il ne manque pas d'air. Le fait qu'il fut un temps souffleur de verre ne vient que confirmer cette impression. C'est un homme de paroles, de musique et d'idées qu'il partage et défend. Il apparaît délibérément libre, certainement trop pour une société qui confond souvent liberté et anarchie, anticonformisme et rébellion. Yann Moix dit de lui qu'il est mégalomane et humble, narcissique et complexé, insupportable et adorable, égoïste et prodigue, égomaniaque et altruiste. Serait-il un paradoxe ambulant d'une ambivalence constante, tellement sans attache qu'il en devient attachant, sincère et intègre face à ses hauts idéaux? Habitué des plateaux télé et radio, habité par ses passions, abrité par son talent lorsque l'ironie ambiante, la moquerie s'abat sur lui. On l'a connu en colère, mais toujours à juste titre. Il a dit un jour « Le regard des autres ne me regarde pas ». Aujourd'hui, point de regard échangé, mais des points de vue. Nous nous contenterons contents de l'écouter. Lui aussi, entendons-nous bien, sera les yeux fermés, puisque tel est le principe de cette expérience radiophonique qui débute, disons, maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue aujourd'hui à Francis Lalanne,
dans le noir.
Bonjour Francis Lalanne.
Bonjour mes amis.
Comment allez-vous dans le noir? Comment vous sentez-vous après quelques secondes plongées dans l'obscurité?
J'ai écrit dans un de mes livres « Je ne vois bien que dans le noir ».
Donc vous voyez encore un peu mieux qu'il y a quelques instants?
Bien sûr, quand on ouvre les yeux, on voit plus rien. On est regardé par des images, ce qui est complètement différent.
Et dans le noir ainsi, vous voyez comment?
L'homme entend avant de voir, et donc c'est un petit peu une sorte de, comment dire, d'épreuve que finalement lui impose le regard. Parce que en fait, quand on ferme les yeux, je veux dire qu'on a une vision quand même beaucoup plus claire des choses. On sent où sont les choses et il vaut mieux sentir où elles sont que savoir ou croire ça, que l'on sait où elles sont. Voilà.
Vous entretenez quel rapport avec l'obscurité de la nuit? Vous faites quoi la nuit? Vous êtes un dormeur classique?
Non,
vous créez, vous écrivez?
Je suis vraiment quelqu'un de qui aime la nuit et qui a besoin de la nuit et de noctambule en fait. Je suis un noctambule invétéré. Je commence à m'animer quand la nuit tombe. Le jour, je m'évapore un peu. Je me densifie la nuit. Je m'intensifie la nuit. Il y a en plus ce phénomène extraordinaire dans la nuit de ce qui se passe dans le cerveau au moment où le corps s'endort. C'est ce moment du sommeil biologique qui s'avance lentement comme ça, comme une marée sur le sable. C'est quand on le vit, c'est extraordinaire parce qu'on a accès à des territoires intimes, intérieurs, dans lesquels on va peu, finalement, parce qu'on dort les trois quarts du temps. Les moments où ces territoires se révèlent, on dort en général. Donc, soit on est en sommeil paradoxal et ça devient des rêves, soit on est éveillé et ça peut devenir de la création.
Francis Lalanne, vous avez passé une enfance entre Mont-de-Marsan, l'Uruguay, Marseille. Est-ce que ça vient de ce début de vie déjà où vous étiez cosmopolite que vous semblez être bien plus un citoyen du monde qu'un Marseillais ou qu'un Français?
Moi, je comprends pas des histoires de frontières, de tout ça. Je trouve que c'est abusé, quoi. Je suis pas collectiviste au sens où j'estime que tous les animaux s'approprient des éléments du monde. Donc, s'approprier des éléments du monde pour construire son terrier, d'une certaine manière, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Maintenant, que cette appropriation des éléments du monde induise la dépossession de l'autre, ça va pas. C'est pour ça que, oui, à ce moment-là, oui, on peut dire que la propriété, c'est le vol. Oui, si on dépossède l'autre, s'approprier quelque chose, c'est voler quelque chose. Et alors, l'histoire des frontières, ça ressemble un peu à ça, mais avec une espèce de consensus qui est légitime, en fait. Mais je vois pas trop pourquoi on va dire de ce côté-là du monde c'est chez moi et de ce côté-là c'est chez toi. Ça c'est quelque chose qu'on m'a jamais expliqué. En tout cas, on m'a fourni des explications qui ne me conviennent pas.
Quand vous aviez 18 ans, vous chantiez dans le métro à Paris. Vous dites à propos de cette époque, je faisais la manche dans le métro, on me jetait des pièces comme un singe dans un zoo. Ce furent des années infernales de solitude, d'expériences négatives et nulles. J'éliminais tout ce qu'il y avait de créatif en moi. Le plus difficile à cette époque, c'était quoi? C'était le manque de reconnaissance?
C'était le manque de lien. Quand vous écrivez votre projet, c'est de rencontrer l'autre à travers ce que vous lui proposez comme image du monde. C'est-à-dire vous faites une proposition et elle n'a de sens cette proposition que si elle est prise en compte par l'autre. Si l'autre affiche une fin de non-recevoir et que vous vous retrouvez en face de vous-même avec votre proposition et tourner en rond sans pouvoir rencontrer l'autre par cette proposition finalement c'est pas quelque chose qui vous relie à l'autre, c'est quelque chose qui vous éloigne de lui. Donc créer devient un non-sens, créer devient une expression, absurde de la solitude.
Et c'est le lieu qui crée ça, c'est le côté impersonnel du métro où les gens
non,
passent sans écouter vraiment.
Je pense que ce qui crée ça, c'est la tournure que prend le monde. Il y a une phrase de Saint Jean dans, je crois que c'est dans l'Apocalypse, que j'aime beaucoup. Qui dit mon Dieu ou Seigneur, je ne te prie pas pour le monde, mais pour qu'étant dans le monde, il n'ait pas l'esprit du monde. Il y a à l'heure actuelle une sorte d'embargo, d'annexion de l'esprit de l'être par l'esprit du monde, qui n'entraîne pas l'être humain vers le, j'allais dire, ce qu'il y a de plus généreux, de plus lumineux dans son humanité, voyez. Et cette déshumanisation de l'homme qui semble aujourd'hui plus que jamais prendre pour modèle la machine, c'est assez inquiétant, non? Quand vous êtes comme ça dans des lieux publics où les gens se croisent sans se regarder, sans même tenir compte du fait qu'ils ne sont pas seuls, ça fait peur un petit peu. On se dit mais est-ce que tout le monde est bien conscient que l'autre c'est nous, qu'on vit sur la terre avec lui et qu'on vit pas tout seul. Et le problème c'est que aujourd'hui tout ça n'est plus très clair.
On va vous proposer une séquence qui s'appelle l'image du son. Maintenant, on va vous faire écouter un son et vous allez nous dire, alors que vous êtes dans le noir, Francis Lalanne, ce que vous voyez en écoutant ça.
Ça m'inspire, ça me rappelle un petit peu le bruit que faisait la vieille pendule de mon grand-père, qui était une pendule à balancier. Je ne sais pas si vous avez connu ça.
Ouais, ouais.
Et qui faisait un boucan pas possible, quoi. Et qui était dans ma chambre en plus. Donc je suis devenu, je pense, insomniaque grâce à ce bruit.
On va rajouter un autre son.
À ce moment-là, si vous liez ces deux bruits, ça doit être un métronome, le piano. Et ça, c'est avec le temps de Léo Ferré, l'introduction. C'est vrai que le métronome, ça fait ce bruit-là aussi. Ouais. C'est un balancier, hein.
C'est exactement le même principe.
Oui, oui.
Ça marque le temps qui passe.
Oui, oui.
Pour vous, Léo Ferré, vous avez dit que c'était un...
Ça donne une quantité au temps, en fait. Parce que le temps ne passe pas.
Ça le quantifie.
Mais on donne une quantité au temps, c'est-à-dire qu'on l'invente. Le temps est une illusion persistante, disait Einstein.
Ça nous donne presque une impression de contrôle, donc c'est une illusion un peu rassurante.
Une illusion linéaire et persistante, disait Einstein. Un jour, il était dans un train avec des collègues et le train était en retard par rapport à l'horaire indiqué et prévu. Donc certains de ses collègues s'en offusquent et le manifestent bruyamment et l'un d'eux dit « Mais quand est-ce que ce train va arriver à la ville donc, où il devait arriver ?» Et Einstein s'est levé et a dit « Cher collègue, je pense que vous commettez une grave erreur, ce n'est pas le train qui se rend vers cette ville, mais c'est cette ville qui se rend vers notre train.
» Pour vous, Léo Ferré, je disais, vous avez dit c'était un ami, un frère, une lumière. Vous l'avez connu, vous avez chanté plusieurs fois avec lui.
Oui, c'est 15 ans d'amitié et de fraternité heureuse et constructive avec un être de lumière, un être ténébreux et de lumière, puisque vous aimez les oxymores à la Yann Moix. Mais oui, un être vraiment qui était dans une souffrance pas possible par rapport à la vie humaine et en même temps d'une lumière enfin permanente, quoi, un éclairage tellement pertinent sur l'existence et la relation humaine que moi c'était devenu pour moi un besoin éminent que de pouvoir le retrouver régulièrement sur la terre et échanger avec lui. Donc lorsqu'il est parti, ça a été pour moi un moment de désespoir dont je ne me suis pas encore vraiment relevé, comme peut l'être la perte d'un parent. Je ressens la même chose par rapport à mon père, par rapport au décès de ma mère. C'est, voilà.
Vous le chantez sur votre dernier album, Aléo. Alors, si j'ai bien tout compris, c'est le groupe Carré Blanc qui a utilisé des voix à blanc. De votre voix chantant Léo Ferré, qu'on remixait ça.
En fait, quand Léo est parti, je ne pouvais plus aller le voir, et donc j'avais besoin de ses rendez-vous. Donc, le jour de sa mort, j'ai inventé un rendez-vous où je suis descendu dans un studio et j'ai chanté une de ses chansons. C'était Les Anarchistes, comme ça, a cappella à voix nue, et dans un studio donc régi par des amis qui ont un groupe marseillais de rock'n'roll et de musique évolutive qui s'appelle Carré Blanc. Donc sans me le dire, ils ont gardé ces prises de voix. Et en fait, il y en a eu très souvent. Enfin, chaque fois que j'avais besoin de retrouver Léo sur la terre, j'allais chanter dans un studio une de ses chansons comme ça. Ils ont gardé tout ça. Et sans me le dire, ils ont un jour mis de la musique sur ses voix. Et un jour, ils m'ont fait écouter le résultat et ils m'ont demandé si j'étais d'accord pour qu'on... On sorte ça comme si c'était un disque en fait que j'avais moi-même enregistré. J'ai dit j'étais pas vraiment d'accord là pour faire ça, mais en même temps j'ai trouvé le travail qu'ils ont fait tellement magnifique. J'ai écouté ça comme le disque d'un autre en fait. C'est pas vraiment moi que j'entendais. C'était des chansons de Léo mises en musique par des garçons merveilleux avec un talent incroyable, et puis ma voix au milieu de tout ça qui est comme ça, comme celle d'un oiseau sur une branche qui chante parce qu'il est un oiseau. Tout ça a été très naturel en fait, et très tombé sous le sens d'une certaine manière, sans que je l'ai voulu moi-même. Alors j'ai dit appeler la famille, appeler Marie, appeler Marie-Cécile, appeler Manuela, appeler Mathieu, et demandez-leur s'ils sont d'accord pour que vous sortiez ça. Et s'ils sont d'accord, mais je suis d'accord.
Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on en écoute un extrait maintenant ?
Ah oui, avec bonheur. Oui.
L'album s'appelle Aléo, et vous parliez de cette chanson qu'on écoute tout de suite sur la première, Les Anarchistes.
Il y en a pas un sur 100, pourtant ils existent. Et la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas. Et les anarchistes, ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils vont gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves vomitants, et puis l'âme toute rongée par de foutues idées. Y en a pas un sur cent, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois pour que dalle et pourquoi, avec l'amour au poing sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Y'en a pas un sur cent, pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier, ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie. Des couteaux pour couper le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Qu'il y en a pas un sur cent et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien. Bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
Bonjour à vous tous, je suis Francis Lalanne et avec vous dans le noir. J'ai écrit dans un de mes livres « Je ne vois bien que dans le noir ». Quand on oublie les yeux, on ne voit plus rien. On est regardé par des images, ce qui est complètement différent.
Francis Lalanne est l'invité de Dans le Noir aujourd'hui sur la première. Tout de suite, on va stimuler votre sens du toucher, si vous voulez bien. Je vais vous demander de tendre le bras gauche.
Gauche.
Et je vais y placer quelque chose. Bon, vous allez reconnaître rapidement, j'en suis sûr. C'est un peu lourd.
Ouais, c'est une guitare ou
oui,
il y a,
c'est une guitare.
Il y a des cordes, je vois.
Il y a des cordes.
Ouais. Donc, il y a des cordes, mais elle a l'air étrange, cette guitare. Attendez, je la... Donc, c'est une guitare, une demi-caisse. C'est pas une caisse complète.
Bravo.
Donc il y a pas de rosace. Donc il doit avoir voilà, donc c'est une Godin parce que la rosace est sur le côté. Elle est bien accordée, voilà.
Ça change de jouer dans le noir ?
Je pense que se servir des yeux pour la musique, c'est d'une certaine manière un moment où on cesse d'être sincère.
Ouais. Vous fermez les yeux quand vous jouez ?
Le plus possible.
Thank you.
merci.
Merci
à vous. Je vais reprendre cet objet.
Ouais, vous êtes toujours à gauche. Voilà.
Okay. Merci. Mm. Que vous avez reconnu rapidement et précisément. À propos des objets, un jour vous avez dit, quand j'étais petit, j'étais quasiment autiste, je parlais surtout aux objets.
Oui.
Plus qu'aux humains.
Alors, l'histoire de l'autisme, c'est qu'on m'a classé là-dedans à un moment donné. Je sais pas trop ce que c'est l'autisme, en fait. Mais personne vraiment ne sait vraiment ce que c'est, je pense. Quand j'étais petit, je me sentais beaucoup mieux avec les objets qu'avec les êtres vivants, et je communiquais beaucoup mieux avec les objets. Je me suis mis à communiquer avec les êtres vivants parce qu'ils ressemblaient à des objets dont on m'entourait de plus en plus, qui étaient des figurines, des poupées, des jouets représentant des êtres vivants. Et donc je me suis mis à m'intéresser aux êtres vivants parce qu'ils ressemblaient à mes objets, en fait. Et donc ils pouvaient pas être méchants puisque mes objets ne l'étaient pas. Je me suis rendu compte par la suite que mon analyse n'était pas tout à fait juste. Voilà, j'avais peut-être raison d'avoir un peu peur des êtres vivants.
Et du coup, vous êtes revenu un peu parfois aux objets, vous leur reparlez un peu?
Je me sens toujours mieux avec les objets. En plus, les objets, ils ont quelque chose de beaucoup plus rassurant que les êtres vivants, c'est qu'ils sont, eux, ils sont terminés. Depuis que je suis devenu adulte, en fait, depuis que l'enfant que je suis, a accepté... de cohabiter avec l'adulte, j'ai découvert d'autres plaisirs que celui d'être enfermé dans un monde dont je n'avais rien à craindre. Et ça, c'est bon, ça fait partie des... Alors, c'est pareil avec les êtres vivants que sont les animaux. Un animal, je pense qu'il a des choses à vous dire. Un chat, comme un chat... Un chien comme un chien, un sanglier comme un sanglier, et pas comme un homme justement, ou une femme, pas comme un être humain. Et c'est ça qui est merveilleux chez les animaux, c'est qu'ils ne sont pas des êtres humains. Et c'est ça qui me rassure tellement avec eux, et je trouve que c'est tellement pas bien de faire de l'anthropomorphisme négatif ou positif avec les animaux. C'est tellement bien d'envisager qu'un animal est un animal, et un être humain, un être humain. Le seul point vraiment commun qu'on peut avoir, c'est qu'on est vivant. Mais ça, c'est le point commun qu'on a avec toute chose dans le monde, sur la Terre, dans l'univers. Tout est vivant. Les pierres sont vivantes. Tout est vivant.
On va vous proposer un voyage sonore qui est aussi très vivant à l'intérieur de votre vie, une sorte de portrait en son de votre carrière, qui va débuter dans un avion parce que, vous nous direz peut-être tout à l'heure si c'est une légende, mais il paraît que vous êtes né dans un avion, Francis Lalanne.
Good afternoon, ladies and gentlemen. We'd like to welcome you on board flight number 100.
Marseille, c'est la ville où je suis né. Marseille.
Il est 7h30. Vous êtes à l'écoute de France Inter, le journal Jean-Luc Hess.
Jean-Luc Foulquier, bonsoir. Je suis chez Marcel actuellement, au relais routier du Coq Chantant. C'est à peu près à 33 km de Paris.
Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fous devant ma porte? Et qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux? Elle m'a fait si mal, si mal, si mal, si mal, si mal, si mal, si mal.
Les Francofolies, cette grande fête de la chanson francophone pendant 5 jours à La Rochelle. Le rideau s'est ouvert aujourd'hui à 16h avec sur le podium...
C'est la francophonie.
Moteur.
Ça touche pas à mon fils, tu m'entends? Sinon je te tue. Je te tue, je te tue, je te tue. Je te tue. Ça touche pas à mon fils.
Rien ne nous séparera. Même pas une chrysanthème.
Il y a bien de l'air, ce me semble, du bon gussement de Donnelville.
Mais c'est quelque chose aussi à peu près de cela.
Quoi, c'est lui?
Lui-même.
Et depuis quand est-il dans cette ville?
D'hier au soir.
Don Quichotte est encore davantage que l'un des sommets de la littérature occidentale.
3615, Code Père Noël, le film.
Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons.
Quand je te vois, je crois que c'est un rêve. Mais dans le rêve, était-ce vraiment toi? Car je ne sais trop vraiment si je rêve, puisque mon rêve n'est fait que de toi.
Colonel Barque.
Ici le général Joffre. Je vous ordonne de reprendre l'attaque.
Je n'en ferai rien.
Quoi?
Je ne peux obéir à cet ordre.
Monsieur Ibrahim, il m'a emmené à Paris.
Le théâtre, c'est l'école de la dignité. Par rapport à la variété, je pense qu'il y a une rigueur supplémentaire qui nous force à chaque fois repousser nos limites et à retourner à l'école.
Tu as deviné mon bail. J'ai un ennemi.
Qui me fait le plus marrer, c'est quand tu vois des gars comme Macron dire que voilà, invoquer les, dire qu'ils sont anti-système. C'est magnifique. Ouais.
C'est à Évry, dans l'Essonne, que Francis Lalanne a choisi de s'engager dans la campagne des législatives. Il ne manque jamais une occasion de rallier la population à sa cause.
Les anarchistes.
Tu sais, les anarchistes, grâce à toi, Léo, je n'ai jamais été seul. Même au plus noir de mes détresses, ta voix, tes poèmes, ta musique étaient là pour marcher près de moi.
Vous semblez rester là-haut.
Il y a beaucoup de fantômes dans votre montage. Ouais. Et à commencer par le mien. J'ai du mal. Quand mon père a quitté ce monde, dans mes bras d'ailleurs, et il m'a dit, un peu avant de s'en aller, il m'a dit, mon fils, tu sais, ce qui est important dans la vie, ce n'est pas de faire partie du passé, c'est de faire partie de l'avenir. Et j'ai du mal à rester connecté avec mon passé. Ce que je ressens parfois, c'est le manque des êtres que j'aime et qui sont partis. Ça, c'est quelque chose de prégnant et qui demeure. Mais je suis un petit peu comme ces entraîneurs qui disent à leurs joueurs qui ont raté un but sur le terrain de foot et qui sont en train de se rouler par terre parce qu'ils ont raté leur but. Replace-toi, la suite. Voilà. La vie, pour moi, c'est pas derrière soi, c'est devant soi. Si on a cette chance encore de pouvoir faire un pas de plus. Donc tout d'un coup, il m'est donné de vivre ce moment où ressurgissent les fantômes du passé, j'éprouve un trouble qui est celui de me dire que ce passé est du présent, en fait, en réalité. Si on se conforme à une forme de vision quantique de l'existence, en fait, il n'y a pas de passé. Il n'y a que des moments présents à la place où ils ont été des moments présents. Et tout d'un coup, il y a cette espèce de présence du passé qui ressurgit par un son de voix, par un souvenir, qui redevient du présent à ce moment-là. Et c'est toujours, pour moi, un conflit. J'ai une faculté à me retrouver dans ce présent-là tout d'un coup quand il revient. Quand il se manifeste comme ça, qui m'éloigne un petit peu, qui me dévie un petit peu. Je crois que c'est Zulawski qui disait que pour lui, le cinéma, la seule fonction du cinéma, c'est de conserver la mémoire de nos morts. Moi, j'aime bien cette image de la mort qui n'est qu'un passage d'une vie à une autre. La carte numéro 13 dans le tarot, c'est pas la fin de quelque chose. C'est un changement d'état, un changement de posture, un changement de le passage d'une vie à une autre. Voilà.
Francis Lalanne est dans le noir aujourd'hui sur la première pour encore une dizaine de minutes. On va écouter une genevoise tout de suite, Nour, avec la lumière bleue. C'est extrait de la BO du film Marie Curie de Marie-Noël Serre. Et on se retrouve juste après. On va tester votre goût, Francis Lalanne.
Je sens comme un désir ardent dans le sang qui se consume jusqu'au
aujourd'hui, Francis Lalanne est dans le noir. Est-ce que tout va toujours bien ?
Bah oui, tout va toujours bien dans le noir.
Enfin, je vous dis toujours bien alors que c'est peut-être pas le cas, mais si, tout va toujours bien.
Moi, j'aime bien le noir. Ouais.
On va tester votre goût, si vous voulez bien.
Je sens quelque chose.
C'est
quelque chose qui se mange, ça.
Ouais, l'odorat, ça sera dans 5 minutes. Mais... Donc, je vais demander si vous voulez bien d'ouvrir la bouche. Ah. Et je vais y placer une fourchette. Vous pouvez refermer. Voilà, je retire la fourchette. Est-ce que... vous arrivez à deviner ce que vous êtes en train de manger.
Alors.
C'est peut-être pas réussi.
Un mélange subtil entre des spaghettis.
Ouais.
Avec quelque chose de sucré qui pourrait être une sorte de fruit.
C'est votre recette pour tout dire.
C'est des pâtes au chocolat.
Exactement. Puisque même. Vous avez participé à l'émission Un dîner presque parfait, j'ai trouvé cette recette. Alors, je ne l'ai peut-être pas totalement réussi, mais c'est des pâtes au chocolat avec de la fraise aussi.
Voilà. Moi, c'est la fraise qui m'a... c'est le fruit qui m'a...
J'ai peut-être trop mis. Il est un peu prédominant, là.
C'est-à-dire qu'on ne sent pas trop le goût du chocolat, mais on sent bien le goût du fruit.
C'est mangeable.
Voilà. C'est très bon. Les pâtes au chocolat, les pâtes aux fruits, les pâtes sucrées... C'est comme le riz au lait, en fait. Vous voyez, c'est les pâtes. Ça n'a pas de goût, une pâte. En fait, c'est un exhausteur de goût.
Alors, est-ce que vous pouvez tourner votre visage plutôt vers la droite?
D'accord.
Comme ça, vous êtes.
Je ne sais pas où est le micro.
Ouais, encore un peu plus vers la droite.
Là.
Encore
là,
un peu plus.
Encore.
Encore un tout petit encore, peu.
Voilà, ça y est.
Vous l'avez parfaitement connu.
Oui, en fait, les pâtes, c'est un exhausteur de goût. En fait, donc quand vous mélangez des pâtes à du salé. C'est un exhausteur de goût salé, de goût de d'épices ou de choses comme ça qui sont parfois même pimentées ou bref. Mais alors on peut faire la même chose avec du sucré. Les pâtes traditionnellement elles peuvent aller avec du sucré comme avec du salé puisqu'elles vont être elles n'ont pas de goût vraiment à la base les pâtes. Ça n'a pas de goût.
Vous avez dit un jour dans notre société, aujourd'hui, la notoriété a remplacé le talent. Et on peut avoir l'impression que parfois on s'adresse plus à votre notoriété qu'à votre talent, Francis Lalanne. Et on vous a vu beaucoup à la télé dans des émissions. Bah là, je parlais d'un dîner presque parfait. Vous avez cette recette. On vous a vu aussi dans des émissions de télé-réalité, 60 jours à 60 nuits, Nice People, Danser avec les stars, Fort Boyard. Est-ce que du coup vous contribuez pas un petit peu à ça en participant à ce genre d'émission? Parce que vous n'y allez pas pour chanter. Vous y allez avec...
Alors,
l'image que vous...
Déjà, vous avez mélangé des choses...
Oui, comme, des jeux et des téléréalités.
Oui, vous avez mélangé des choses qui n'ont pas de rapport et qui ne font pas partie du même genre. Ouais. Non, c'est avec les stars, ça implique une performance artistique qui, je vous assure, est réelle. Oui, et d'ailleurs, moi, je suis devenu danseur depuis cette émission puisque maintenant, je danse régulièrement et c'est une de mes activités professionnelles, d'ailleurs, les plus lucratives. Je danse notamment avec une compagnie valaisanne qui s'appelle la compagnie Interface. Donc, Jardine Lanfa et André Pigna, et ainsi que Paul et Tom et tous ceux qui composent la troupe. Et donc, et on va danser dans le monde entier, etc. Donc, danser avec les stars déjà, c'est même si c'est un programme de télévision et de divertissement, mais qui requiert des qualités techniques et artistiques. 60 jours, 60 nuits, c'était une expérience qui aujourd'hui est culte, hein, mais qui n'est pas de ce qu'on peut appeler de la télé-réalité. C'est plutôt une sorte de pari, de reportage permanent sur la vie d'un artiste. Vous savez, la vie des artistes, on s'y intéresse beaucoup, par exemple à l'école, quand on vous explique que Verlaine battait sa mère ou des choses comme ça, ou qu'il couchait avec Rimbaud, ou des choses comme ça. On s'intéresse beaucoup à la vie privée des artistes et on explique beaucoup de choses sur leurs œuvres en s'intéressant à leur vie privée. Là, c'est une expérience comme ça, cathodique, qui tout d'un coup permettait au public de connaître la vie quotidienne d'un artiste d'une manière peut-être un peu plus directe que l'enseignement scolaire et du vivant de l'artiste plutôt qu'après sa mort. Après, vous avez parlé de Nice People.
Bon, on va peut-être pas tous les faire.
Non, mais c'est pour vous
justifier, mais c'est vrai.
Si vous voulez aujourd'hui supprimer la télévision.
J'ai l'impression que vous y passez plus que vous ne la regardez.
Je ne la regarde. Moi, personnellement, je ne la regarde pas. Est-ce que j'en pense du bien? Certainement pas. Est-ce que je trouve intéressant certaines expériences auxquelles j'ai participé? Oui. Car si je ne les avais pas trouvées intéressantes au demeurant, et si je n'y avais pas vu le moyen de vivre une expérience qui allait m'apporter quelque chose, Et je l'aurais pas fait. Vous voyez, par exemple, Fort Boyard, c'est une expérience extraordinaire pour moi, d'acteur et de performeur. Parce que c'est une expérience unique. C'est-à-dire que moi, vous me demandez d'improviser, il n'y a pas de problème, je suis improvisateur. Vous me demandez de dire un texte, j'ai pas de problème, je suis un acteur. Là, on vous demande de dire un texte, on vous demande d'improviser dans le cadre, finalement, d'une relation avec un partenaire qui ne l'est pas, puisque lui, il n'a pas la même préoccupation que vous, il vient jouer, il vient participer à un jeu, et vous devez à la fois jouer un personnage, parce que je joue un personnage récurrent, comme le père Fouras dans le fort, et en même temps, vous devez jouer ce personnage, indiquer la règle du jeu, gérer en improvisant la façon dont le personnage, dans le candidat va vivre son expérience, et tout ça... sans possibilité de reprendre, parce qu'on est en direct, dans les conditions du direct, on peut pas reprendre. Je vous assure que ce sont des expériences qui vous font, moi qui me font évoluer dans mon métier. Après, est-ce que ce qui ressort de ça, c'est ce que je dis, et je ne pense pas. Je pense que ce qui ressort de ça, effectivement, c'est une valeur qui ne l'est pas, qui est même le contraire d'une valeur, qui s'appelle la notoriété, et que j'exècre, que je confie, et que je trouve la chose la plus stupide du monde. Vous prenez n'importe quelle plante verte, vous la mettez devant une caméra, tout le monde va la reconnaître. Vous voyez ce que je veux dire ? Et à un moment donné, elle, ça sera pas forcément bon pour elle non plus d'être reconnue.
Pour lui dire.
Vous voyez. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il est absurde de penser qu'on peut être faire partie de cette société du spectacle et ne pas embrasser ses règles. Je crois que ce qui est important, c'est de rester soi-même, quoi qu'on fasse et quel que soit le contexte dans lequel on le fait. Donc, est-ce que je participe à la société de la notoriété ? Oui, mais Victor Hugo aussi y participait, en allant dans certains salons et dire des poèmes devant des gens pour qui il n'avait pas forcément d'estime. Ce qui est important, c'est de ne pas succomber à cette société, c'est-à-dire de ne pas se prendre pour soi, c'est de ne pas se prendre pour son image, de rester soi-même et d'être capable de, en permanence, empêcher les gens de se laisser entraîner dans ce mirage. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous savez, quand on est un chevalier et qu'on fonctionne sur le bréviaire du chevalier, il n'y a pas de danger à être ingéré par le dragon. Parce que si on est sûr de sa pureté, si on est sûr de sa quête, de ce qu'on veut faire et être, non seulement il n'y a pas de danger pour le chevalier à être ingéré d'un dragon parce que le dragon ne va pas le digérer, mais il va même se donner une chance d'empoisonner le dragon avec sa pureté. Et je pense que des gens comme moi, dans la société de la notoriété, ça, c'est un petit caillou qui empêche parfois l'engrenage d'entraîner le public vers une mauvaise compréhension de ce qu'il regarde.
Francis Lalanne, dans quelques instants, vous allez pouvoir sortir du noir. On va écouter un petit peu de musique tout de suite.
Avec
et puis
plaisir.
On testera votre odorat juste après. Voici la New-Yorkaise d'origine italienne, Laura Pergolizzi, avec Other People. C'est tiré de son album Lost on You.
Just avec le cœur.
Dans le noir.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
Quand on ferme les yeux, je veux dire qu'on a une vision quand même beaucoup plus claire des choses. On sent où sont les choses et il vaut mieux sentir où elles sont que savoir ou croire ça, que l'on sait où elles sont.
Je vais me permettre de placer quelque chose sous votre nez et oui. Vous allez respirer bien.
Qui est bouché, hein.
Ah.
Ah, oui, oui.
Ah.
Ah, oui, oui. Alors attendez, je sais très exactement. Ce que c'est une... Alors, c'est un fruit, donc,
ouais, ouais.
Et je connais ce fruit, donc j'ai juste oublié le nom. Voilà, c'est un fruit. C'est une... attendez. Pêche.
Bravo,
voilà,
bravo.
Ah, c'est,
bravo, vraiment, pas
c'est
évident.
Une pêche
un peu trop mûre, savez-vous pourquoi?
Parce que c'est ce que disait Léo de moi.
Exactement, ouais, Léo Ferré disait.
Ouais.
Que vous êtes une pêche trop mûre, quelle que soit la saison.
Quelle que soit la saison.
C'était ouais. Joli comme formule.
Oui, c'est surtout très vrai.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui se cache derrière
c'est
ça
que, ce qu'il a dit, voilà.
Comment l'entendez-vous?
Comme il l'a dit.
Rien à rajouter?
Je le ressens comme j'ai reconnu l'odeur de ce fruit. Voilà, de la même manière. Avec un léger décalage qui n'ont pas sur le... C'est juste le décalage provenait du fait que je ne me rappelais pas le nom de ce fruit ouais. Que je connais, que j'ai reconnu. Voilà. Ça doit vous indiquer ce que voulait dire Léo de moi. Vous connaissez ce poème que j'ai écrit peut-être sur les cinq sens, non?
Je vous écoute.
Je sais pas si on a le temps, mais à un moment donné, dans le poème, je dis m'en veux pas pour les mots que je t'ai dit, mon amour, j'ai pas dit. Trop d'amour, quelquefois, ça ressemble à la haine. J'ai pas dit ces mots-là pour te faire de la peine, mais parce que je veux que tu m'aimes plus souvent qu'à mon tour. M'en veux pas. Trop d'amour, quelquefois, ça ressemble à la haine. M'en veux pas pour les mots que je t'ai dit, mon amour. Bon, ça continue comme ça, et après, il dit, la dame à la licorne, elle, a renoncé au plaisir, aux cinq sens, et son seul désir est de devenir insensible, mais pour toi, ce n'est pas possible. L'amour t'empêche de choisir. L'amour, madame à la licorne, l'amour qui rend aveugle et sourd. M'en veux pas pour l'amour, mon amour.
Voici le questionnaire ombre et lumière. Cette question pour terminer cet entretien. Quelle est la dernière fois où vous avez broyé du noir? C'était quand et c'était pourquoi, Francis Lalanne?
Vous voulez dire la dernière fois où j'ai eu vraiment de la peine, au point de trouver que la vie ne valait pas la peine d'être vécue. C'est le moment où j'ai perdu ma mère. Voilà. Je tenais sa main. Elle a eu une énième apnée, elle n'a pas souhaité, au-delà de cette apnée, reprendre sa respiration et elle s'est éteinte, voilà, de son plein gré, après avoir beaucoup lutté pour rester allumée. Et j'ai eu énormément de chagrin. Et c'était, oui, broyer du noir, c'est-à-dire ne plus même être ce nyctalope. Qui voit dans la ténèbre, c'est ne plus savoir qu'on voit, ne plus savoir qu'on entend, ne plus vouloir y voir, ni rien entendre, vouloir ne jamais avoir été là. Oui, c'était ce moment-là.
Quelle est l'idée la plus lumineuse que vous ayez eue au cours de votre vie?
Je pense que c'est de choisir l'inconnu. À un moment donné, je me suis dit si tu veux vraiment te rencontrer, il faut te perdre. Et j'ai passé ma vie à me perdre pour me trouver. C'est une idée constante que j'ai toujours voulu nourrir en moi. Et qui m'a permis de vivre souvent cet état merveilleux, cet état d'émerveillement qui s'appelle la surprise.
Comment vivez-vous avec votre part d'ombre ?
Comme Goethe nous conseille de le faire lorsqu'on est poète. Il nous dit finalement que le daimon, ce daimon, ce démon qui nous habite, eh ben, y a un âge où il faut qu'il nous domine. C'est celui de Rimbaud. Et puis un âge où il faut qu'on le domine. Celui de Hugo, écrivant L'art d'être grand-père et La légende des siècles. C'est celui de Goethe aussi, quand il a cessé d'être Rimbaud.
Que vous apporte la lumière des projecteurs ?
Ça m'a causé... J'ai tellement détesté ça dans ma vie que ça a fini par provoquer un double décollement de la rétine et de la macula qui m'a coûté... qui fait qu'aujourd'hui, je porte des lunettes et que je suis en traitement orthoptique parce que pendant l'opération, le chirurgien a distordu le nerf oculaire et m'a créé une divergence oculaire. Et voilà, ça m'a plus causé des problèmes d'ordre pathologique que régler mes problèmes, j'allais dire, de relations avec les autres.
Selon vous, mourir, c'est atteindre la lumière au bout du tunnel ou se retrouver dans le noir à tout jamais ?
Mourir, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. C'est-à-dire passer d'un état à l'autre, d'un mot à l'autre, d'une vie à l'autre. La mort, c'est le mécanisme de la vie.
Qu'aimez-vous faire le plus dans l'obscurité ?
Ouvrir les yeux et voir.
Et qu'aimez-vous faire le plus en pleine lumière ?
Fermer les yeux et voir.
Dans le noir.
Vous pouvez soulever votre bandeau, si vous le désirez.
Oui.
Et vous remettre dans la lumière.
Ah, vous étiez donc à ma gauche.
Bonjour, j'étais juste là.
Je vous ai imaginé étant à ma droite tout le temps, en fait.
Comment ça s'est passé ? Comment vous avez vécu cette heure dans le noir ?
Sous le bandeau, comme on dit chez nos amis maçons. Moi, c'est vraiment des situations, pour moi, qui sont loin d'être perturbantes. Hein. C'est même le contraire.
Ah, vous étiez super à l'aise.
Plus je suis dans le noir, plus je suis à l'aise.
Ah ouais. Oui.
Plus je suis dans la lumière, plus ça devient difficile à gérer pour moi. Voilà.
Donc plutôt agréable et plutôt chez vous.
Oui, plutôt même, j'allais dire, j'ai eu une journée harassante et je pense que j'étais pas tout à fait en état de répondre à des questions dans le cadre d'une interview et finalement ça m'a plutôt reposé que
ça vous a réveillé un peu de vous retrouver dans le noir.
Ça m'a défatigué, on va dire. On invente un mot, allez hop, un néologisme. Voilà.
Dans le noir.
Pour y voir plus clair.
Merci beaucoup pour cet entretien, Francis Lalanne.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
C'était Dans le Noir, une émission réalisée par Alexandre Lemierre. Merci à François Piton pour la programmation musicale. Si vous désirez réécouter cette émission, rendez-vous sur rts.ch sur la page de l'émission Dans le Noir. La semaine prochaine, pour la dernière émission Dans le Noir de l'été, c'est l'écrivain Bernard Werber qui sera au rendez-vous samedi à partir de 14h.